Les nuits de France Culture.
Le photographe Robert Descharnes fut sans doute le plus proche collaborateur de Salvador Dali. Auteur d'une énorme biographie de Dali et de plusieurs autres ouvrages qui lui étaient consacrés, il fut le meilleur des experts de son œuvre, membre à vie de la fondation Gala Salvador Dali et directeur de la société Demar, chargée de la gestion des droits d'auteur de Dali. En 1956, pour la troisième partie de son entretien avec Salvador Dali, Robert Mallet avait convié Robert Descharnes à venir présenter avec le célèbre catalan le projet de film sur lequel ils travaillaient ensemble. Un film entièrement réalisé selon la fameuse méthode paranoïaque critique et dont le titre méritait quelques éclaircissements, l'aventure prodigieuse de la dentelière et du rhinocéros. Pourquoi la dentelière? Pourquoi le rhinocéros? Et quel rapport entre les deux? C'est ce que nous allons découvrir dans l'archive qui va suivre, dans laquelle Dali évoquait aussi son projet d'illustration pour Don Quichotte. Entretien avec Salvador Dali, troisième et dernière partie, diffusée le 11 janvier 1957 sur la chaîne nationale.
La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Entretien avec Salvador Dali. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, cohérence de l'incohérent. Histoire prodigieuse du rhinocéros et de la dentelière. Dali, Don Quichotte et le gouffre de la connaissance. Avec la participation de Robert Descharnes.
Vous nous avez dit, Salvador Dali, que vous pensiez qu'il n'y avait pas de progrès dans le domaine de l'esprit. Pour vous, et pour moi aussi d'ailleurs, il y a une perfection qui a pu être atteinte il y a des milliers d'années dans ces civilisations que nous apprenons chaque année à mieux découvrir. Mais dans le domaine de l'art en particulier, dans ce domaine que vous avez abordé de front dans votre dernier livre, Les cocus du vieillard moderne, dans ce domaine-là.
Dans l'art, je crois qu'il y a encore peut-être moins de progrès que dans le reste. C'est pour ça que j'ai mis tout dans les cocus. J'ai commencé par les divins torches de Phidias et des choses grecques jusqu'à arriver au nu bestial de Picasso, dans lequel vraiment on ne peut pas dire que ce soit un progrès à côté de Phidias, au nu de Picasso.
Oui, mais là il ne s'agit pas de Picasso et du nu de Picasso, il s'agit de l'assomption du Santiago de Salvador Dali. Est-ce que Salvador Dali a l'impression que lui, c'est un progrès par rapport au nu de Phidias?
Je crois que ça, si on arrivait à qu'il soit quelque chose d'approchant ou d'équivalent au nu de Phidias, mais transposé fatalement aux conceptions de la nouvelle physique d'aujourd'hui, ce serait déjà quelque chose d'absolument miraculeux et largement suffisant.
Alors je voudrais
si nous pouvions, je crois, Mathieu et moi, devenir les Phidias d'aujourd'hui, de la discontinuité de la matière, moi je signe tout de suite, je trouve que ça suffit, je suis très content de ça, je ne veux pas surpasser
ça. Mais comment pourriez-vous savoir que vous seriez Phidias?
Comment?
Vous ne pourriez pas le savoir, justement, c'est cette connaissance de votre propre expérience que vous ne pouvez pas avoir.
Oui, parce que j'ai cette espèce de sentinelle de la répugnance qui se localise justement dans le coude et en dessous de la langue. Et le jour que ça arrive, je le sens tout de suite.
Oui, vous dites la sentinelle de l'arrêt.
Je vous le téléphone, je dis maintenant, ça y est, je suis le Phidias de la discontinuité de la matière.
Non, mais vous dites la sentinelle de la répugnance. Ce n'est pas la sentinelle de la répugnance, ça serait la sentinelle au contraire, de l'attirance.
Ah non, c'est toujours les choses que je souhaite le plus qui me sont averties par la répugnance. Ça, je considère que Aurel Colne, l'Hongrois, qui a écrit la phénoménologie de la répugnance, il a dit que toujours la répugnance est la sentinelle qui est tout près de la porte des choses qu'on désire le plus, des choses que nous souhaitons le plus, et de la façon surtout gustative, qui est celle que...
Oui, d'ailleurs, c'est bien ce qui nous a troublé souvent dans l'expression de votre œuvre, c'est ce mélange entre la répulsion et la propulsion.
Exactement.
Mais comme ça, s'il y avait à partir de la répulsion justement cette propulsion.
Exact.
Et cela nous a souvent déroutés, désorientés, cela nous a même choqués. Et on a vu dans cette discontinuité apparente, non seulement de la peinture, mais de votre esprit,
ça,
je dis
bon.
Apparente.
Ce que vous dites, c'est très bon parce que vous touchez le...
Mais on a vu quelquefois une incohérence. Bon. Or, je crois qu'il y a une très grande cohésion dans votre système, il faut bien le dire, vous avez un système très organisé, vous êtes ce fou de précision, vous êtes cet homme précis de folie, si l'on peut dire. Et alors, je voudrais vous demander maintenant, en abordant un plan beaucoup plus pratique, un plan immédiat, comment, à travers ce film que vous êtes en train de réaliser avec M. Descharnes, vous avez voulu nous montrer le cheminement, le processus, mieux que la genèse, je dis le processus, puisque ça va jusqu'à l'aboutissement, de votre, non pas de votre concept, mais de votre conception, de votre réalisation de l'art. Ce film s'intitule, et ici je donnerai la parole à M. Descharnes, qui nous expliquera comment l'idée lui est venue de le réaliser avec vous, Salvador Dali. Ce film va s'appeler, n'est-ce pas, l'histoire prodigieuse, plutôt histoire prodigieuse de la dentelière et du rhinocéros. Alors je vous demanderai de nous préciser ce que vient faire ici ce rhinocéros en face de cette dentelière qui est celle de Vermeer, de Delft.
C'est ça. Je crois que quand Salvador Dali est allé copier au musée du Louvre la dentelière, en 1954, nous avions pensé faire des prises de vue. Et c'est à partir de ce moment où le film... et a été entraîné, et j'ai décidé, d'accord avec Dali, de faire un film avec et sur la méthode paranoïaque critique.
Le premier film.
Le premier.
Le premier film sur Dali ou sur la méthode paranoïaque critique?
Je dis avec l'utilisation de la méthode paranoïaque critique, parce que ce film est tourné justement avec l'emploi total de la méthode paranoïaque critique.
Mais comment cela se traduit-il finalement?
Cela se traduit par, l'utilisation de tous les hasards objectifs et de l'enchaînement de toutes les pensées de Dali. Je crois que là, il peut expliquer beaucoup mieux que moi, à partir du musée du Louvre, comment il y a un enchaînement direct entre la dentelière et les cornes de rhinocéros pour aboutir maintenant à la dernière séquence que nous tournons sur la chair de poule.
Oui, ce mot « chair de poule » éveille notre curiosité. Alors, Salvador Dali, pouvez-vous nous dire ce que vient faire ici cette séquence de la chair de poule dans le rhinocéros et la dentelière?
C'est la dernière conséquence imprévue et paradoxale de cet effet apollonien que toujours on a observé, de calme absolu de la dentelière, lequel, à travers toute cette suite systématique de faits délirants et de pensées délirantes, aboutit au frisson. C'est-à-dire, on va filmer demain le phénomène du frisson qui est matérialisé dans la chair de poule se répandant sur un sein féminin. Et ceci est
à partir de quelle sensation?
La sensation est à trouver, parce qu'il y a plusieurs sensations qui peuvent produire la chair de poule. Je crois qu'on utilisera le bruit, c'est-à-dire quand avec une fourchette on gratte sur le marbre.
Le crissement d'une fourchette sur la pierre.
Sur le marbre, mais cette chose va être amplifiée au lieu d'une fourchette, ça va être 5 baïonnettes.
Ce qui est symbolique aussi, oui, car les baïonnettes nous donnent la chair de poule. Oui.
Non, et parce que le numéro 5, c'est pythagoricien, et c'est à la base de l'ursin. Et enfin, tout le film est
avec la réaction sur le sein, en faisant un mauvais jeu de mots.
Exactement. Et après, le sein possède, comme vous savez, ces granulations. Comme moi, j'ai toujours à la pointe du sein qu'on croirait qu'on peut téléphoner, ces petites granulations tout à fait spéciales.
Oui, des grumeaux.
Comme a affirmé qu'ils ne sont rien d'autre que de la chair de poule chronique. Et justement, d'une façon imprévue, la dentelière finit dans le mythe et dans la tragédie grandiose d'Oreste. c'est-à-dire le moment où il y a le doute le plus grand et le plus sublime de tous, où le fils hésite de sa mère, et sa mère lui dit s'il osera de transpercer le sein, qu'il lui a donné le lait.
Oui, alors ce sein a la chair de poule, mais là, il a la chair de poule sans besoin qu'il y ait le crissement du couteau sur la pierre, simplement la vue du couteau suffit à provoquer cette chair de poule, je pense.
Oui, mais pour moi, le couteau doit être dirigé exactement dans un endroit précis de ce sein et doit érecter cette chair de poule avec le maximum de puissance, et c'est ce que nous allons filmer.
Demain. Mais alors j'ai compris maintenant ce qu'était cette séquence, enfin je crois comprendre un peu ce qu'est cette séquence de la chair de poule, mais ça ne m'explique pas le rapport qu'il y a entre la dentelière et le rhinocéros. Alors monsieur Deschamps, voudriez-vous nous le dire pour les auditeurs?
Oui, c'est assez difficile à expliquer parce qu'au fond, toute la continuité est visuelle. Alors je pense que Salvador Dali, qui avait peint cette copie avec à l'aide de spirales logarithmiques et qui après a fait des études très poussées, et passer de là dans la structure du tournesol.
Tournesol à celle de la chauffleur, qui est constituée par
une infinité de spirales logarithmiques, une concentration d'univers et de galaxies.
Qui sont aussi de la chair de poule.
Oui, justement, d'ailleurs, je pense que c'est...
Toutes ces granulations sont de la chair de poule. Et à l'ursin, qui est, d'après les toutes dernières découvertes morphologiques, l'ursin n'était qu'une goutte d'eau qui ne se répandait pas en parfaite tension. Et ça, c'est moi que je le dis, au moment de la création d'ursin, a dû passer une terreur terrible, un effroi terrible de perdre, de se briser, de perdre l'originalité virginale de son galbe, de sa forme. Et à ce moment-ci, cette goutte s'est hérissée de chair de poule qui a été agrémenté par les épicules, par les pointes, qui était le mécanisme de défense qui le protégeait justement de perdre cette originalité, cette virginité de sa forme.
Mais vous avez toujours été assez préoccupé par cette vision du hérissement. Et dans vos mémoires, vous nous parlez de l'épisode du hérisson. Or, l'oursin est...
J'avais pas pensé à ça, mais c'est un très bon antécédent. D'ailleurs, constamment, nous faisons des découvertes que chacune de ces images, on trouve des antécédents.
On retrouve ici le mythe solaire, car ce sont toujours des circonférences hérissées de piquants comme de rayons.
Exactement, exactement.
Et je voudrais
d'ailleurs, maintenant... D'ailleurs, c'est un caractère cosmique, le film fini, parce que toutes ces choses que j'expliquais dans l'Est passent du côté d'Eschyle, dans la tragédie normale d'Eschyle, à une vraie tragédie cosmique, qui est celle des coefficients d'incertitude comment il s'appelle ce monsieur
Heisenberg,
je ne sais jamais le dire.
Oui, donc, cette fameuse loi d'incertitude qui est maintenant une des lois primordiales
qui est,
dans la science.
À mon point de vue, le frison de notre époque.
Oui, car autrefois...
La chair de poule de tous nous.
Oui, ça, vraiment, on peut avoir la chair de poule, les scientifiques peuvent l'avoir, car au moment du positivisme, ils avaient posé comme base à toute science que la science était, elle, sûre et que c'était la seule certitude et que maintenant, on est arrivé à démontrer rationnellement, enfin scientifiquement, que la loi d'incertitude est une des lois fondamentales de la science. Là, il y a de quoi avoir la chair de poule. Parmi vos projets actuels, Salvador Dali, il en est un autre, qui n'est plus de cinéma, mais de publication, d'édition illustrée. Ce livre que vous avez illustré, car je crois que vous n'avez pas encore entrepris ce travail.
Oui, je suis en train d'illustrer en ce moment.
Don Quichotte de Cervantes. Et je crois que Don Quichotte est un personnage qui doit beaucoup vous plaire, car vous-même, vous nous donnez l'impression d'être, par moments, mené par un certain sens, une certaine passion de Don Quichottisme. Et je ne dis pas que vous alliez vous battre contre les moulins, je ne dis pas que, comme Don Quichotte, vous croyez trucider des géants quand vous ne faites que pourfendre des outres de vin. Mais je pense que tout de même, il y a chez vous un désir d'aller très loin dans une connaissance, et il y a un épisode de Don Quichotte que je suis presque persuadé que vous chercherez à illustrer, c'est celui du gouffre de Montesinos.
Absolument.
Et ici, je voudrais citer ce que dit Don Quichotte, il me semble que c'est vous qui pourriez le dire, vous allez me dire si je me trompe. « Je vais me précipiter, m'engloutir et m'engouffrer dans l'abîme qui s'offre à mes yeux, uniquement pour que le monde apprenne qu'il n'y a pas de choses impossibles que je ne tente et que je n'accomplisse. » Et je vois Don Quichotte s'engouffrer dans cet énorme précipice, soutenu par des cordes que tient Sancho Panza, Et je vous vois, vous, Salvador Dali, vous enfoncer dans la connaissance artistique un peu comme Don Quichotte. Et je crois que cette image doit vous tenter.
C'est exact dans le cas précis de Don Quichotte. Je m'effondre et je descends dans le gouffre d'une chose qui s'appelle les bibliophiles. Que j'admire beaucoup parce que je considère que c'est des
fous. Ah oui, là, ce n'est plus la connaissance avec un C majuscule, c'est une connaissance plus restreinte.
C'est espèce de fou absolument fétichiste, c'est les gens les plus fétichistes de la Terre, et lesquels ils ont surtout la passion de posséder les choses les plus rares qui soient dans le monde. Alors moi, je veux que chacune de ces illustrations de Don Quichotte soit la chose la plus rare par les moyens qu'on a mis à son exécution.
Et vous allez faire des eaux-fortes
des lithographies, mais aussi, de même que le film avec Deschamps, d'après la méthode paléocritique. C'est-à-dire, soudainement, j'ai l'association d'idées de fusées, d'arquebus à cause d'une lecture moyenâgeuse, et j'utilise un arquebus pour réaliser un seul trait, que dans le livre sera la lance de Don Quichotte. Alors, le bibliophile aura la garantie que cette ligne a été tracée de cette façon, que le bouclier, par exemple, a été tracé d'après les oscillations d'une pendule, selon la rotation terrestre. Donc, chaque petit incident de ces lithographies doit aussi comporter un élément de Don Quichottisme exacerbé.
Qui aboutira à un livre qui se vendra à un prix, je pense, très élevé.
Exactement. C'est pour ça que...
On parle de plusieurs millions.
Je crois que c'est 12 millions.
12 millions.
12 millions d'exemplaires.
Ce sera vraisemblablement le livre le plus cher qu'on ait jamais vendu.
Le plus cher et en tout cas le plus paranoïaque en même temps. Dans le domaine spirituel et dans le domaine temporel.
Dans le domaine spirituel et dans le domaine temporel. Je comprends dans le domaine temporel, mais dans le domaine spirituel, je comprends moins bien.
Oui, parce que l'activité paranoïque préside non seulement aux images, à la conception du sujet de chaque image, mais
à l'élaboration
de chacune d'elles. C'est-à-dire, je disais à Mathieu, c'est un peu sa son idée aussi, on fait un trait dans une rue, là où il y a Napoléon qui est mort, après on montre vite avec un taxi à Montmartre et on fait un autre trait parce qu'il doit être fait à Montmartre et pas ailleurs. Et de la suite d'une série de déambulations de type quasi délirant, remplies de hasard objectif et de fortuité.
Il doit naître un système très cohérent.
Un système très cohérent qui aboutit à une lithographie. Oui. C'est pour ça qu'on traîne derrière moi tout le temps une grande pierre lithographique, parce qu'il doit enregistrer toutes ces oscillations justement de type spirituel.
Ce qui ressort de tout ce que vous venez de dire, Salvador Dali, c'est qu'il y a chez vous une recherche passionnée du dérèglement de l'homme pour aboutir à une nouvelle règle. Et il y a en effet cette connaissance en vous profonde de ce que vous êtes, de ce que vous voulez être aussi, pour améliorer ce qui est extérieur à vous, c'est-à-dire que vous cherchez à partir de votre subjectivité à être objectif. Et ça, c'est une recherche qui nous est très, très sympathique et très utile.
Et encore, c'est mieux que ça. Parce qu'en plus de cette volonté de puissance, plus ou moins masculine, qui est celle qui est la mienne propre, il y a une volonté de puissance féminine, qui est celle de Gala, qui est obscure.
Je précise pour les auditeurs que Gala est votre femme.
Invisible, oui. Mais très agissante. Mais ça, c'est uniquement la postérité qui pourra décortiquer jusqu'à quel point.
Oui, mais est-ce que
partie de mon génie est arrosée tout le matin et tous les soirs par
une présence continue.
Par une présence.
Oui. Car il n'y a pas de discontinuité dans cette présence. Mais il y a aussi en vous, Salvador Dali, à côté de cet élément mâle, il y a l'élément femelle qui vous appartient à vous en propre, que vous ne devez pas à Gala. À Gala, dont le nom d'ailleurs est encore un beau jeu de mots, Gala le lait, qui vous donne ce lait nourricier. Vous avez ce lait en vous de la féminité, comme tous les grands artistes. Vous avez une part femelle en vous.
Ah oui, oui, moi je me suis déjà peint avec des seins et tout
Vous voyez, je ne pensais pas si bien dire. En tout cas, Salvador Dali, vous faites donc une recherche vers les abîmes de la connaissance et en même temps vous avez dit, vous avez écrit que vous cherchiez au fond le ciel, dont Gala était peut-être pour vous une sorte de préfiguration, mais vous n'en êtes pas tout à fait sûr. Et vous dites ici, je vous cite, qu'est-ce que le ciel ? Le ciel ne se trouve ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Le ciel est exactement au centre de la poitrine de l'homme qui a la foi. et vous ajoutez un post-scriptum, et je trouve que ce post-scriptum est assez déchirant. À cette heure, je n'ai pas encore la foi, et je crains de mourir sans ciel.
Mais ça va mieux.
Vous venez d'entendre « Entretien avec Salvador Dali », propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Aujourd'hui, cohérence de l'incohérent. Histoire prodigieuse du rhinocéros et de la dentelière, Dali, Don Quichotte et le gouffre de la connaissance, avec la participation de Robert Descharnes.
C'était la troisième et dernière partie des entretiens avec Salvador Dali, diffusée le 11 janvier 1957 sur la chaîne nationale.